soir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la clôture hier jeudi 11 juillet du conclave de l'opposition nationale congolaise. Comme deuxième sujet, nous parlerons du bilan à mi-parcours du gouvernement Matata Ponyo. Tels sont les thèmes retenus pour la tribune de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit d'Israël Moutala, il est journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives qui apparaît à Kinshasa. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir.
Nous serons également avec Albert Omba, il est journaliste à Tropicana FM, une radio privée émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kinshasa.
Et depuis Kolozi au Katanga, nous sommes avec Gaston Mouchide, directeur de la radio-télévision Manika. Bonsoir Gaston Mouchide.
Bonsoir Samuel.
Bienvenue à tous dans cette émission. Clôture hier jeudi 11 juillet du conclave de l'opposition nationale congolaise et le bilan à mi-parcours du gouvernement Matata Ponyo figure parmi les sujets ayant fait les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
Les prises de position de l'opposition politique congolaise face aux concertations nationales convoquées par le chef de l'État Joseph Kabila sont à la une de la presse. Le potentiel affirme concertation nationale, l'opposition est mal partie. Les conclaves de l'opposition qui s'est clôturé ce jeudi a ramené à la surface les profondes divergences qui minent cette plateforme de la classe politique congolaise. La référence plus indique clôture ce jeudi des travaux du conclave. Soudé, l'opposition rejette les concertations politiques. Les cinq commissions du conclave ont présenté leurs conclusions qui ont été adoptées en plénière. Les participants ont rejeté les concertations politiques au profit du dialogue politique national et transparent prévu dans l'accord cadre d'Addis Abeba. La conférence de presse tenue par le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo le week-end dernier à l'hôtel du gouvernement où il a fait les bilans à mi-parcours du premier semestre 2013 est aussi à la une de la presse. Les potentiels écrits, Matata brise le mythe d'une assistance permanente des partenaires extérieurs. Le Premier ministre Matata Ponyo s'est entretenu le samedi 6 juillet 2013 en son cabinet avec la presse pour rendre compte de son bilan à mi-parcours pour le premier semestre 2013. Des points essentiels en fait sa communication, la situation de l'économie congolaise au 30 juin 2013 et l'état des lieux du secteur social. Dans les chapitres économiques, le Premier ministre a indiqué que, en dépit d'un contexte économique mondial défavorable, le tableau économique de la RDC est reluisant. Évaluation à mi-parcours, Matata, bilan élogé, fait savoir l'avenir. Même si le souhait du gouvernement est d'améliorer sensiblement le social des Congolais, Matata Ponyo a étalé un bilan élogieux des 6 premiers mois de l'année qui démontre les efforts fournis dans la stabilité du cadre macroéconomique, la régularité de la paie, les emplois créés, l'éducation, la santé, l'agriculture, les transports, l'eau et l'électricité, ainsi que les routes.
Merci beaucoup Guy Maté. Israël Moutala, je rappelle que vous êtes journaliste à Géopolis, un magazine extractif qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la grève depuis le 1er juillet 2013 des chefs des travaux assistants, chercheurs et chargés des pratiques professionnelles à l'enseignement supérieur universitaire. Un petit commentaire par rapport à cette information, bien sûr.
Bon, je pense que beaucoup de travail doit être fait pour remettre l'université, l'enseignement supérieur et universitaire au diapason des universités les plus prestigieuses du monde. Mais on doit faire vraiment un grand effort. On a fourni un effort important pour permettre aux professeurs d'université de vivre dignement. Et les professeurs ordinaires ont autour de 2000 dollars de salaire, ce qui est important. Mais je pense qu'on doit faire maintenant une deuxième étape, un deuxième travail au niveau justement des assistants, ce qu'on appelle le corps scientifique, et au niveau aussi des administratifs. Donc l'œuvre intellectuelle à l'université n'est pas que le fait justement de professeurs d'université. Ils sont accompagnés justement par plusieurs autres corps qui doivent aussi bénéficier de l'attention du gouvernement pour les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent bien faire leur travail. Donc je pense que cette crise révèle qu'il y a un malaise auquel le gouvernement doit s'attaquer. mais sans préjuger déjà de la décision du gouvernement. Je pense que le vice-premier ministre Daniel Moukoko avait déjà envisagé de mettre un peu de l'ordre dans tout ce qu'il y a comme rémunération et prime dans la fonction publique. Il a déjà institué une grande commission qui réfléchit sur l'harmonisation et les barèmes salariaux des primes et salaires des agents et fonctionnaires de l'État.
Oui, merci Israël Moutala. Albert Omba, vous êtes, vous, journaliste à Tropicana FM. C'est une radio privée qui émet depuis Kinshasa. Un autre sujet ayant marqué l'actualité, c'est la connexion de la RDC à la fibre optique. Un petit commentaire.
Oui, avant d'arriver à la connexion, je voudrais ajouter un mot sur ce qu'Israël a dit sur le mouvement de grève qui secoue l'enseignement supérieur. Et c'est pour dire qu'hier aussi, les administratifs sont entrés dans la danse, comme Israël a dit. Et il y a trois corps à l'enseignement supérieur, les corps académiques, les corps scientifiques et les corps administratifs. Un des corps a été payé. Maintenant, les autres, les deux autres corps, les scientifiques et les administratifs, cherchent la régularisation de leur situation. Pour revenir à l'inauguration de la connexion de la fibre optique, c'est une très grande ouverture que la RDC vient d'avoir au monde. Vous savez qu'on avait beaucoup de difficultés à utiliser la voie satellitaire pour avoir accès à toutes les données. Et maintenant qu'on a une voie câblée, c'est une grande révolution pour la République démocratique du Congo. Et c'est un travail qui a été fait. Maintenant, le deuxième travail qui reste, c'est de connecter toute la République. J'ai vu que le câble va être au-delà de Kikwit, ils sont vers Kananga, et s'ils peuvent atteindre Lubumbashi, et ne pas oublier Bandaka, Bukavu, Kindu et les autres villes, Kisangani aussi. Et à ce moment-là, si toutes les villes de la République sont connectées, ça va permettre au moins l'évolution assez technologique assez développée pour le pays. Et il faut qu'on remette ça maintenant, remettre surtout l'outil de travail. Alex et ONPTZ pour ce travail-là.
Ok, merci Albert Omba. Gaston Mouchido, vous êtes à Kolwezi au Katanga et vous êtes directeur de la radio-télévision Manika. Quelle est l'actualité qui est à la une à Kolwezi, là où vous êtes?
Donc, à Kolwezi, présentement, il n'y a pas grand-chose au Katanga particulièrement, sauf que il y avait, comme je l'ai dit la semaine passée, des tracts disant que les 11 juillet, ça allait être... le Katakatanga qui viendrait déranger la quiétude des paisibles des citoyens, et la sécurité est renforcée, mais les gens dorment tranquillement et donc ça se passe bien, à part les multiples positions des militaires et policiers dans la ville.
Oui, merci beaucoup Gaston Mouchid, et sans transition, nous passons à notre premier sujet du débat de ce soir. L'opposition politique congolaise a clôturé hier jeudi 11 juillet son conclave. À l'issue de ces assises, l'opposition s'est dit ouverte au dialogue national et non aux concertations telles que convoquées par le chef de l'État. Elle s'oppose aussi à la révision de la Constitution avant la fin de la législature en cours. Les participants aux travaux de ces concertations exigent la mise en place d'une nouvelle commission électorale nationale indépendante composée égalitairement entre toutes les composantes afin de rendre véritablement neutre cette CENI. Michel Bongongo, rapporteur du conclave de l'opposition, revient ici sur les grandes lignes de ce conclave. Il est au téléphone avec Kéline Kouté.
Nous avons pris trois résolutions importantes. L'une en rapport avec la tenue du dialogue politique. La deuxième en rapport avec le refus de toute révision de la Constitution. La troisième résolution porte sur l'organisation et le fonctionnement de l'opposition politique de façon transitoire en attendant que le porte-parole de l'opposition soit installé.
Honorable Michel Bongongo, en quoi le dialogue que vous réclamez sera-t-il différent des concertations convoquées par le chef de l'État?
Bon, la différence, c'est le contenu de l'ordonnance présidentielle dans sa forme et dans son fond. Dans les concertations nationales créées par le chef de l'État, nous estimons que le chef de l'État ne doit pas créer, il doit convoquer. Le deuxième problème, c'est que dans les concertations nationales créées par le chef de l'État, tout est préparé. L'ordre du jour est préparé, le règlement intérieur est préparé. Donc, les autres composantes viendront là comme des invités. Et le format de la composition des participants s'est déjà arrêté. Nous pensons que nous avons besoin de ce dialogue. Il faut absolument nous puissions aller dans un véritable dialogue politique, comme le demande l'accord cadre et la résolution 2098. Et pour que nous puissions le préparer comme il faut, nous pensons que il serait bon de mettre en place un comité préparatoire qui puisse permettre qu'on ait avec l'esprit du consensus, l'esprit de produire un compromis politique historique dont notre pays a tant besoin.
Israël Moutala, comme nous venons de le suivre, l'opposition se dit ouverte au dialogue national et non aux concertations politiques telles que convoquées par le chef de l'État. Quelle est votre analyse par rapport à cela?
Mon analyse, c'est que nous sommes dans un rapport de force. Le chef de l'État avait besoin d'une tribune politique pour renforcer la cohésion. Les opposants, eux, depuis les élections de novembre 2011, ne cessaient de décrier l'étroitesse de la légitimité de l'actuel pouvoir. Ils estiment que Kabila est soit mal élu, ou au pire, n'a jamais été élu. Donc, d'une part, pour les opposants, ce forum politique allait résoudre, entre autres et principalement, la crise de légitimité. Mais pour Kabila, ce n'était pas une question de crise de légitimité, c'est pour amener plus de cohésion. Donc, on était déjà dans deux prismes très différents. Et donc, Kabila a convoqué ses concertations, c'est vrai. Et les opposants ont raison de le dire. Celui qui convoque les concertations, dans la forme dont elles ont été convoquées, a plus ou moins le contrôle de ce forum. Parce que il invite qui il veut, il lui-même a choisi les matières sur lesquelles on va discuter. Bref, en les convoquant de la manière dont il les a, en les créant de la manière dont il les a créés, Kabila garde la haute main sur ces concertations. Et donc, les autres se sentent piégés. Ils veulent qu'à la place, que l'on convoque les concertations, que l'on mette d'abord un comité préparatoire qui va décider de qui on invite et de quoi on parle. Mais aller comme ça, dans les concertations politiques telles qu'elles ont déjà été pensées et convoquées par le président de la République, les opposants pensent que ça ne va pas résoudre leurs préoccupations.
Mais Israël, pourquoi l'opposition ne dit pas clairement qu'elle récuse la personne qui a convoqué ces concertations au lieu de se lancer dans des débats, des concepts?
Oui, c'est vrai, mais non, mais enfin, ils ont carrément déjà rejeté les concertations. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'y participeront pas, ils n'y participeront
mais
pas.
Mais ils ne citent pas clairement le chef de l'État pour récuser sa personne.
Non, ça veut dire que quand ils disent par exemple qu'ils ont besoin que ces concertations soient placées sous une médiation internationale, j'étais moi-même personnellement au conclave, quand on a cité par exemple une personnalité comme Denis Sassou Nguesso, j'ai vu tous les opposants acclamer. Bref, donc en disant déjà que nous voulons que ces concertations soient placées sous une médiation internationale, c'est une façon de rejeter justement la médiation de Joseph Kabila. Moi je comprends aussi le chef de l'État, il aimerait garder quand même la main sur... un processus politique, c'est dans son souci, ce n'est pas que le processus politique qu'il va initier lui échappe, il veut le contrôler. Donc nous sommes dans un rapport de force qui fait que chacun veut contrôler le processus politique. Mais si nous réfléchissons très bien, le chef de l'État est déjà pris au piège tout de même, parce qu'aujourd'hui, en convoquant les concertations, il ne peut pas se dédire. Mais si les invités ne viennent pas, ça serait un échec cinglant pour lui. Donc il a intérêt à convaincre les opposants à venir participer à ce forum et en participant à ce forum, trouver un compromis pour faire avancer le pays. Et ce compromis est facilement trouvable parce que les opposants ont dit qu'ils ne sont pas intéressés par un gouvernement d'union nationale. Ce qui les intéresse, c'est que eux, ils ont renoncé à revenir sur la révision constitutionnelle, celle de janvier 2011, et puis la réforme de la CENI. Bref, donc on peut trouver facilement un compromis.
Mais Albert Omba, vous de votre côté, comment vous analysez les conclusions de ce conclave?
Moi, je crois qu'il fallait qu'on commence quelque part. Tout le monde a crié fort qu'il fallait que les chefs d'État puissent organiser un dialogue ou concertation. Ça dépend. Je ne vais pas entrer dans les guéguerres de terminologie. Il fallait quand même que les chefs d'État puissent convoquer l'opposition pour discuter. Donc, les gens devaient se mettre autour d'une table et discuter. Maintenant, qui devait convoquer ces gens? Qui devait convoquer ces forums? Et il faut qu'il y ait quelqu'un. Et c'est le chef de l'État qui l'a fait, parce que c'est à lui qu'on s'adressait pour qu'il le fasse. Malheureusement, peut-être les thèmes qui ont été choisis, choisi et la méthodologie utilisée pour convoquer ces concertations n'a pas trouvé l'avis favorable de l'opposition.
Mais l'opposition aurait aimé que ce soit un médiateur international qui convoque ces concertations.
Nous avons insisté sur ce point-là. Nous avons dit qu'il faut une commission préparatoire pour donner confiance à tout le monde. Dans la commission préparatoire, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit qu'il faut un groupe de l'opposition, un groupe de la majorité. Le président de la République a convoqué ces concertations, il allait désigner une équipe pour dire, voilà, vous me préparez autant pour les opposants, autant, et ce groupe-là va nous proposer l'ordre du jour. Ça pouvait avancer les travaux, nous l'avons dit. Mais quand on a donné ça à ceux qui ont géré, les gens l'opposition s'est sentie marginalisée, prise en otage. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème de terminologie. Pour l'opposition, c'est la légitimité du chef de l'État qui est mise en cause. Pour l'opposition, on ne peut pas toucher à la Constitution. Pour la majorité, on ne peut pas mettre en cause la légitimité du chef de l'État. Donc, il faut qu'on trouve un terrain d'attente pour ça. La médiation internationale, nous avons insisté là-dessus. Pour apaiser tout le monde, pour donner confiance à tout le monde, il faut une médiation internationale. Et nous avons cité sur ce même plateau, il y a plus de 6 mois, Sassou Nguesso qui pouvait intervenir. Parce que pour la communauté internationale, si on doit avoir quelqu'un qui doit superviser ça, ça ne veut pas dire qu'on a bafoué l'autorité du chef de l'État. Il reste toujours chef de l'État. Mais pour que ça donne confiance aux autres acteurs politiques, il faut une médiation internationale.
Ok, Gaston Mouchid, vous êtes conclusé au Katanga. Quelle lecture vous faites des conclusions de ce conclave?
Je me dis que l'opposition, ou une partie de l'opposition, parce que tous n'ont pas été là, a raison de poser un certain nombre de préalables. Mais je voudrais que cette opposition se mette en tête que cette concertation qu'elle veut qu'on appelle dialogue, ne devra pas être un partage de gâteaux. Parce que même si Israël dit que l'opposition a clairement dit qu'elle n'avait pas besoin de se partager les gâteaux, mais c'est ce qui est dit, sous-entendu. Vous avez suivi que l'opposition voudrait que on revoie les acteurs de la CENI pour que on se repartage les postes. C'est en fait ça qui revient. Même si on devrait revoir la composition de la CENI, combien y a-t-il de partis d'opposition pour que chacun des partis puisse avoir un poste à la CENI? Donc je comprends que dans la tête des aigris des élections, c'est une façon de rattraper les trains qui est parti. J'aimerais que la majorité puisse aussi considérer un certain nombre de revendications. Par exemple, concertation et dialogue, se mettre d'accord sur la terminologie et voir quels sont les points qu'on peut mettre à l'ordre du jour pour les développements de la nation. Mais là où je ne suis pas d'accord avec l'opposition, c'est de dire « nous n'avons pas participé ». Si vous ne participez pas, c'est-à-dire que le pays va vivre une crise. Pour l'heure, moi je ne vois pas de crise de légitimité, comme le dit l'opposition. Il n'y a pas de crise de légitimité. Nous avons des institutions qui ont été élues démocratiquement. Il faille, à mon avis, répondre à cette concertation, à ce dialogue, et essayer de tirer des recommandations qui pourront aider le pays à se relever. Que de dire nous n'allons pas participer parce que on n'a pas, il est vrai que Bouchard a écrit un livre, mais on n'a pas dit que dans cette concertation, on va pouvoir changer les constitutions. Là, c'est mettre la barre là où il ne faut pas la mettre. J'aimerais que les uns et les autres, c'est-à-dire que la majorité et l'opposition, se mettent d'accord sur un certain nombre de revendications de l'opposition et que l'opposition aussi rejette d'autres parce que nous ne sommes quand même pas un pays sous tutelle. Le chef de l'État a demandé que la gestion de cette concertation serait placée par un présidium. Et donc, nous avons élu ces gens-là, il faut leur faire confiance et posons les problèmes. Je crois qu'il y a lieu de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans ce pays que de penser chaque fois que les Congolais sont incapables de résoudre ses propres problèmes qu'il faut un intermédiaire ou qu'il faut un facilitateur international ou qu'il faut des gens qui viennent d'ailleurs. Je crois qu'il peut trouver, on peut trouver des Congolais capables de gérer ces conflits et de mener à bien cette démarche et de trouver des solutions concertées.
Israël Moutala, aujourd'hui on sent que l'opposition et la majorité ont des points de vue divergents par rapport à ce concept concertation et dialogue. Qu'est-ce qu'on peut faire pour harmoniser les points de vue entre les différentes tendances?
Bon, je voudrais d'abord dire que la seule chose sur laquelle l'opposition et le pouvoir sont tombés d'accord, c'est le lieu de ces négociations politiques. L'opposition veut que ça soit à Kinshasa. Kinshasa aussi, capitale des institutions. Voilà au moins le seul point qui met en harmonie l'opposition et le pouvoir. Mais fondamentalement, le problème, c'est que l'opposition a sa propre lecture. L'opposition considère que le président de la République fait partie du problème, fait partie du mauvais fonctionnement des institutions, est à la base de la crise de cohésion. Et l'opposition a rappelé plusieurs choses. L'opposition rappelle ses immixtions dans la CENI, ses immixtions dans la CEI. L'opposition rappelle le rôle actif qu'a joué le pouvoir pour mettre Bemba à la CEI, à la CPI. L'opposition rappelle tant beaucoup de griefs. L'opposition rappelle les opposants et les prisonniers d'opinion qui sont en prison. Bref, ils disent que non, tout ça justement, ce sont les faits, les griefs mis à charge du pouvoir. Et que le même pouvoir les convoque comme si il était auréolé d'une certaine virginité politique. Bref, ils trouvent que quand même c'est lourd à porter. Le passif du pouvoir est lourd à porter pour que quelqu'un se mette au-dessus de la mêlée. Voilà. Voilà un peu le problème de l'opposition. Et c'est compréhensible. Alors là, de là, pour parler clairement de ces questions là-bas, pour parler franchement, ils aimeraient que ce soit un médiateur international. Chacun de deux camps va formuler ses griefs et on va harmoniser en fin de compte. Eux, ils n'aimeraient pas que même les résolutions dépendent pour leur application du bon vouloir du chef de l'État. Parce que tel qu'on a convoqué les concertations, le chef de l'État pourra voir et décider lui-même de quelle résolution appliquer et quelle n'est pas et quelle autre n'est pas appliquée. Voilà pourquoi il aimerait que ce soit une médiation internationale, que ce soit un engagement fort, qui soit au-dessus du chef de l'État. C'est-à-dire qu'il soit imposable au chef de l'État. Voilà un peu pourquoi ils aimeraient que ce soit la communauté internationale. Parce que quand on va prendre des décisions difficiles, par exemple, ils veulent qu'on revoie la CENI, la nouvelle CENI. Parce qu'ils n'ont pas confiance en Malou. Ils n'ont pas confiance à la nouvelle loi. C'est si les concertations aboutissent à une décision radicale forte en disant que non, on doit encore reformer la CENI. Bref, il faudra une communauté internationale forte pour imposer cette nouvelle volonté politique. Et donc, tout ça, ça va mener à beaucoup de sacrifices. Et j'aimerais justement que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que la République soit apaisée dans les jours à venir avec les élections provinciales et surtout les présidentielles qui sont dans la ligne de mire de tous les acteurs politiques.
Albert Omba, deux concepts qui portent à confusion, bien qui créent une certaine divergence d'opinion entre la majorité et l'opposition, concertation et dialogue. Si vous étiez demandé de proposer un chemin de la sortie de la crise.
Le chemin est simple. C'est question qu'on accepte la terminologie, si je vais le dire, dialogue. Mais un dialogue...
Pourquoi ?
Un dialogue qui ne met pas à cause de la légitimité.
Mais pourquoi est-ce que vous voulez qu'on accepte
le terme dialogue ? Il faut que les gens fassent des concessions. C'est-à-dire, quand la majorité accepte qu'il y ait dialogue, l'opposition doit accepter aussi qu'il y a un pouvoir établi.
Donc, les concessions doivent se faire de deux côtés ?
Non. C'est-à-dire, nous revenons au schéma de la conférence nationale souveraine. Qui avait convoqué la conférence souveraine ? C'était Mobutu. Mais c'était une conférence constitutionnelle. Les gens ont fait autant de débats jusqu'à ce qu'un jour, on est arrivé à la conférence nationale souveraine. Et nous ne voulons pas tomber sur ce même débat, parce que ça prendra assez de temps pour ça, qu'il y ait des concessions. C'est-à-dire, ce que la majorité cherche, c'est qu'on ne mette pas à cause la légitimité du chef de l'État. Et il faut que le chef de l'État aussi accepte que ceux qui viennent dans ce dialogue ont des mots à dire. C'est-à-dire, il doit prendre en considération tout ce qui ira comme recommandation de l'opposition. Et les tout mis ensemble, on pouvait trouver un schéma ou une voie de sortie. Tant qu'il n'y a pas de concession de part et d'autre, ce n'est pas si on change le terme dialogue ou concertation que le contenu doit changer. Non. Le problème, c'est de débattre le contenu sur place. Et tout le monde a son contenu, et il faut débattre, il faut dire au chef de l'État, il y a ça, 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 ça. La majorité va répondre aussi, et on va trouver une voie de sortie. Parce que dès le départ, s'il y a sur la tête de quelqu'un le schéma du partage du pouvoir, parce qu'il y a dialogue, à ce moment-là, les choses ne vont pas marcher. Ce qu'on fait, c'est pour se parler de vive voix, dire à la majorité, voilà ce que vous faites, voilà la cause de la crise, elle vient de tel, tel, tel. Pour avoir la cohésion, faites-nous ça, nous demandons ça, nous demandons par exemple de libérer ça, nous demandons de faire ceci, et c'est tout. Et le président doit exécuter quand même les recommandations. Maintenant, pour mettre tout le monde à confiance, il faut une médiation, c'est-à-dire les observateurs. La médiation dont nous parlons ici, ce n'est pas la médiation qui va gérer les choses, c'est comme observateur avisé, comme témoin, qui va voir, voilà, un comité de suivi qui viendra après le dialogue ou concertation. Ce comité verra si on a appliqué les recommandations de dialogue.
Gaston Mouchid, Albert Omba propose que des concessions se fassent entre les deux parties, la majorité et l'opposition, autour de ces deux concepts, concertation et dialogue. Vous, quelle pourrait être votre proposition pour la sortie de cette crise, bien sûr?
Voilà, moi je dirais la même chose, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il faut des concertations des deux côtés, donc il faut des concessions, que chacun mette de l'eau dans son vin. Mais en même temps, je me dis aussi que l'opposition ne devrait pas viser trop haut. Comme l'a dit tout à l'heure Israël, qu'on trouve des médiateurs internationaux pour qu'on ait des résolutions qui soient imposables à tous, même au chef de l'État. À ce moment-là, ça serait défier la légitimité de ce pays. Ça sera défier la légitimité du pouvoir. Si aujourd'hui, on peut nier que le chef de l'État a été élu, c'est que tout de suite, on va aller droit dans une crise qui ne dira pas son nom. Le pays déjà est divisé, il y a la guerre à gauche, la guerre à droite. Et donc, pour l'heure, à mon avis, très humble avis, il s'agit pour les internationaux de laisser les Congolais se prendre en charge. Parce qu'on dit qu'il faut des médiations des internationaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas convoqué cette concertation ou ce dialogue? C'est le chef de l'État qui a pris en charge les réclamations de l'opposition et qui a finalement demandé à ce que tous se mettent autour d'une table. Et comme on dit, et l'un sale lave en famille. La famille congolaise, elle commence où et finit où? Pourquoi est-ce que les linges sales congolais doivent être lavés par des gens de l'extérieur? Moi, je me dis que même avec les Congolais, il y a lieu de trouver des résolutions et de pouvoir les appliquer. Parce que en essayant trop de penser que le Congo ne peut pas résoudre ses problèmes, il faut que les autres viennent trouver des solutions à notre place. Il faut aujourd'hui, nous avons connu des élections, ça a pris du temps aujourd'hui, ce sont les deuxièmes démocratiques que le Congo est organisé. Si aujourd'hui on tombe dans une crise de légitimité, entre guillemets, et qu'on doit pouvoir se partager les pouvoirs, vous voulez une transition au Congo qui va aboutir à quoi? Et donc, à ce moment-là, le peuple va en souffrir davantage. Vaut mieux, à mon avis, qu'il y ait des points qui soient discutés, qu'on organise bien les élections en 2016, et que le train continue à marcher. Qu'aujourd'hui, de dire non, le chef de l'État n'a pas été bien élu, et qu'il y a ça. Mais ces gens-là qui veulent que l'on redéfinisse les choses, qu'on redistribue les postes, ils vont faire perdre le temps à la République et nous allons commencer à en souffrir, nous, le peuple. Voilà pourquoi je me dis, l'opposition a droit de revendiquer un certain nombre de choses, mais pas dire, comme l'a dit Israël tout à l'heure, que le chef de l'État fait partie du problème. C'est lui qui a convoqué, bientôt là, ça sera 2016, on va avoir d'autres élections. Si nous voulons le changement, allez, ceux qui veulent le changement vont chercher celui qu'ils veulent, mais pendant ce temps, celui qui a organisé, il serait animé de mauvaise foi. Il n'organiserait pas, il ne convoquerait même pas cette concertation. Il oublierait ça et puis en 2016, ça irait. Mais aujourd'hui, il l'a convoqué. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui accorder le bénéfice de la bonne volonté? On dit que lui, il a un problème, en même temps, il est...
Merci.
Non, moi je crois que les gens doivent savoir que ce pays est un pays souverain, qui a des institutions, et avec ces institutions, quand nous avons des problèmes, essayons de revendiquer tout en tenant compte.
Merci, Gaston Mouchid. Merci, Gaston Mouchid. Et sans transition, nous passons à notre deuxième sujet de ce soir. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo se félicite de l'amélioration du social des Congolais et des avancées significatives dans la stabilisation de l'économie congolaise. Il a dit samedi dernier au cours d'une conférence de presse à l'hôtel du gouvernement. Le Premier ministre se dit aussi satisfait d'avoir créé plus de 6000 emplois cette année, construit et réhabilité 1000 écoles, 200 hôpitaux et 1000 centres de santé. Michel Kifinda pour le reportage.
Au titre de ses réalisations, Matata Ponyo parle d'abord de la stabilité du cadre macroéconomique. Aujourd'hui, le fameux langage du taux du jour semble disparaître, affirme le chef du gouvernement qui se réjouit de la stabilité des prix et du taux d'échange retrouvé. Le Premier ministre parle aussi de la bancarisation qui, selon lui, permet aux citoyens d'entrer en direct avec la réalité de son salaire en contrepartie du travail fourni à la nation. Quelques problèmes enregistrés ça et là suite à la bancarisation, Matata Ponyo promet de les solutionner rapidement.
Nous avons encore certains de nos compatriotes qui font des kilomètres pour aller toucher de l'argent. Ça, ce n'est pas normal, mais c'est des problèmes pour lesquels nous appliquons pour trouver des solutions dans la rapidité. Il vaut mieux encore toucher pendant un mois, deux mois votre salaire avec un retard que de les toucher avec 20 000 francs de moins.
Matata Ponyo se félicite par ailleurs de la création de plus de 6 000 emplois depuis le début de cette année. Toujours pour renforcer les sociales de la population, le Premier ministre évoque aussi la construction et la réhabilitation des 1 000 écoles en 12 mois, ainsi que la réhabilitation et l'équipement total de plus de 200 hôpitaux et 1 000 centres de santé.
Israël Moutala, le Premier ministre, se dit satisfait de l'action de son gouvernement au cours de cette année. Quelle analyse vous faites du bilan du Premier ministre?
L'une des plus belles décisions jamais prise Joseph Kabila, c'est la nomination de Matata Ponyo au poste de Premier ministre. Croyez-moi, j'ai fréquenté les premiers ministres, j'ai fréquenté les arcanes du pouvoir, mais depuis que Matata est là, il y a une nouvelle dynamique. Il y a une volonté de gestion rigoureuse, de gestion axée sur les résultats, et ne pas le reconnaître, serait malhonnête de ma part. Voilà pourquoi même je suis inquiet par rapport aux concertations politiques ou aux négociations politiques. Mon souhait, c'est qu'on n'aboutisse pas à un gouvernement d'union nationale où les politiques viendront faire n'importe quoi parce qu'ils n'auront pas la maîtrise du technocrate et les paramètres d'analyse et de gestion des technocrates. Bref, pour moi, je puis dire que je suis d'accord avec le Premier ministre sur son bilan économique. Je rappelle que nous sommes un pays en guerre, qu'il y a des dépenses qui vont au front. Mais les exploits en termes économiques sont évidents, sont patents. La stabilité macroéconomique est une évidence, je la salue. Son projet de réunification routière est un projet qui va connecter les centres de production agricole aux centres urbains qui consomment une bonne partie de la production agricole. Je salue le projet de réhabilitation des écoles. Bref, c'est des objectifs chiffrés, 1 000 écoles avec un budget déjà propositionné. Donc, l'amélioration du climat des affaires, avec maintenant la création d'une entreprise en maximum 48 heures avec le guichet unique, voilà des mesures concrètes dont on a besoin. Bref, l'argent de l'État ne sort plus n'importe comment, parce qu'il y a un vice-premier ministre aussi qui est rigoureux en matière budgétaire. On ne dépense que l'argent qui va à un besoin pertinent. Quand on a servi l'État, on a livré un service pour l'État. Bref, nous sommes là en train de voir quand même poser les jalons d'un État sérieux, d'un État moderne, comme on n'en a jamais vu par le passé. Et cela doit être dit. Ma crainte maintenant, c'est voir comment Matata et ses ministres vont travailler à consolider ces acquis macroéconomiques, cette bonne gestion et cette nouvelle gouvernance qu'ils impriment à la nation.
Albert Omba, on ne peut pas parler de l'économie sans évoquer le social. Et à ce sujet, le Premier ministre estime que le social des Congolais est en train de s'améliorer. Qu'en pensez-vous?
S'améliorer, peut-être. Moi, je suis beaucoup plus à considérer tout ce que M. Matata a déjà fait. Nous avons une flèche qui commence à se tourner vers les hauts. Mais le résultat est encore loin, loin. Il ne faut pas que M. Matata se félicite déjà le matin. Nous sommes d'accord avec lui qu'il a mis tous les agrégats possibles pour que l'économie et le social puissent démarrer. Mais il a encore un très long chemin à parcourir. Je prends le cas des écoles, 1 000 écoles. C'est très bien. Mais ces 1 000 écoles seront dirigées par qui? Par des enseignants. Ces 1 000 écoles vont être équipées. Ces 1 000 écoles auront des élèves. Qui dit élève, dit Minerval. Qui dit enseignant, dit salaire. Je m'arrête là. Je prends le cas des hôpitaux. La même chose. Ce qui reste pour M. Matata, c'est de voir le salaire. Il ne faut pas qu'il échappe cet aspect du salaire. Le social, c'est le salaire. Il faut que le gouvernement le comprenne très bien. Et je ne mâche pas les mots. On ne peut pas parler de développement social sans parler de salaire.
Mais déjà, le aujourd'hui, personnel scientifique est en grève.
Vous dites?
Le personnel scientifique est déjà en grève.
Oui, je vais y arriver. Il y a eu un effort qui a été fait. Je prends par exemple à l'enseignement supérieur. Le gouvernement a tout fait pour payer le professeur. C'est bien fait. Mais les deux autres catégories qui doivent marcher ensemble, ils ne sont pas payés. Ça fait problème. Je prends au secteur sanitaire. On a payé les médecins et les infirmiers. Parce qu'un hôpital ne peut pas marcher sans infirmiers. Je prends le secteur judiciaire. On a payé les magistrats et les greffiers. parce que le système judiciaire ne peut pas marcher sans greffier. Donc, il faut payer chaque catégorie dans les proportions qui lui sont valables. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il faut fixer un SMIG, c'est-à-dire un salaire minimum garanti, comme référence pour tout le monde. Je sais que le gouvernement est de bonne foi, le gouvernement a beaucoup de difficultés et on ne peut pas aller d'un coup. Mais il faut que cette volonté-là soit manifeste. Il ne faut pas qu'on arrive aux grèves récurrentes par-ci par-là. Il faut que cette volonté-là a commencé il y a 2 mois à ajouter 10 000 dollars. Si, depuis qu'il est là, il a ajouté 10 000 dollars chaque mois à chacun, il serait loin. Donc c'est cet effort-là qu'il doit prendre. C'est maintenant, pour émerger, vous savez que le Congo est dans la profondeur des eaux. Quand on parle d'émerger, c'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte un jour à la surface. Les autres pays sont à la surface, on les voit. Mais nous sommes sous l'eau. Maintenant, Matata a mis les flèches, la direction vers les hauts. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas qu'il s'en félicite parce qu'on n'a pas encore quitté l'eau. Nous sommes toujours submergés. Et pour quitter, il y a beaucoup d'autres facteurs auxquels il doit faire attention. Et pour parler des sociales, qu'il s'occupe du salaire et ça va marcher.
Oui, Gaston Mouchide, que doit faire le gouvernement pour matérialiser ces réalisations évoquées par le Premier ministre dans le sens de voir la population bénéficier réellement dans la vie quotidienne de ces 6 000 emplois créés depuis le début de cette année?
Moi, je vois que le Premier ministre Matata est un mal nécessaire.
Pourquoi un mal nécessaire?
Un mal nécessaire parce que on a vu qu'il a stabilisé le cadre macroéconomique, qu'il est en train de jouer avec le taux de croissance et consorts. Mais tout ça, c'est de l'abstrait. Le Premier ministre doit passer de l'abstrait au concret. Vous voyez, le Premier ministre a mis des chiffres pour étaler les réalisations de son équipe. Mais cependant, il se pose des vrais problèmes dans les sociales de la population. On a parlé des 6 000 emplois. 6 000 emplois pour un pays qui a plus de la moitié de la population active chômeur. Ça représente quoi? Vous avez parlé de création de 1 000 écoles. Mais ces 1 000 écoles, vous avez, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, les parents qui payent chaque fin de mois les enseignants. Donc, la paye des enseignants est prise en charge par les parents. Et les parents qui n'ont pas le moyen laissent les enfants à la maison au lieu de les amener à l'école. Aujourd'hui, vous parlez de la bancarisation, de la paye des fonctionnaires à travers les banques. Nous sommes dans un pays qui a plus de la moitié de son étendue qui n'a pas de banque. Et même lorsqu'on paye les fonctionnaires de l'État à la banque, c'est combien qu'on leur donne comme argent? Le maigre salaire alloué aux agents des services publics, même si vous allez toucher ça à la banque, ça ne veut pas changer beaucoup l'assiette de la ménagère. On a parlé par exemple des locomotives qu'on a données à la SNCC. Mais vous savez tous, sans démonstration, que ces agents-là alignent autour de 60 mois de paiement. À Colombie, par exemple, nous avons certains agents de la SNCC qui vivent dans les tentes en bâche parce qu'ils ont été expulsés par leurs bailleurs à cause des mauvais paiements de loyers. Mais ces gens-là, aujourd'hui, si vous leur amenez 6, 10 locomotives, qu'est-ce que vous changez? Pour que ça change, il faut que ces agents-là soient payés et que chacun trouve son compte. Vous avez parlé, il a parlé de la stabilisation du cadre macroéconomique, stabilité des taux de change, mais il faut qu'il y ait de l'argent pour que les gens en bénéficient. Et les taux d'inflation inférieurs à 1%, les taux de croissance 8%, mais quelle croissance? Les gens ne voient pas tout ça. Donc il y a un problème. Aujourd'hui, par exemple, on a demandé à ce que la Constitution dit clairement que le 40% devrait être retenu par les provinces pour le développement à la base. Mais ces 40%-là ne sont jamais donnés aux provinces. Ça va où cet argent? Kinshasa centralise tout ça. Et donc, quand vous avez des chiffres comme ça et que vous n'avez pas la réalité sociale dans la population, c'est vide de sens. Nous avons par exemple la guerre à l'Est. Vous avez, par Radio Capi, vous nous avez informé qu'il y a même les Ougandais commencent à nous attaquer. Mais la sécurité de ces pays, lui, il nous a promis de restaurer la paix et de relancer l'économie. Mais pendant ce temps, Israël a dit que nous sommes en période de guerre, il y a de l'argent qui va à l'Est pour aider le pays à récupérer sa légitimité. Mais cependant, c'est combien d'argent? Parce que les militaires qui sont là ne sont pas toujours motivés, ils ne sont pas bien payés. Moi, je me dis qu'il faut être très concret au lieu d'être abstrait. Regardez, par exemple, pour les cas de la guerre. Par moment, il faut voler des bons exemples. Moïse Katumbi-Tchafé, quand il a un match de football, il demande aux Mazandiens de marquer le but parce qu'il y a une cagnotte, il y a une prime. Vous gagnez ce match, vous avez 200 000 dollars, vous avez 300 000 dollars. Mais si on met une cagnotte, on met une prime pour le forces armées de la RDC, je crois qu'ils vont récupérer nos territoires. Mais ils vont se battre, ils ne sont pas payés. Leur pension alimentaire est gérée par d'autres qui bouffent. Et cette guerre continue à engranger ou à déranger le développement de ce pays. C'est pour ça que je me dis que le Premier ministre Matata devrait être un peu plus pratique que théorique. Les chiffres là, c'est bien, mais voyons un peu en réalité. Qu'est-ce que touche un fonctionnaire de l'État? Qu'est-ce que touche un enseignant?
Merci, Gaston Moussi.
Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas les 40% des provinces pour un développement à la base?
Merci, Gaston Moussi d'Israël Moutala. Le cadre macroéconomique n'est pas en fait bien ressenti par la population. Est-ce que le problème ne se situe pas au niveau de la répartition des richesses?
Il y a un problème de répartition des richesses. Je reviendrai là-dessus. Ça, c'est notre problème. Mais j'aimerais dire à mon ami Gaston que nous ne sommes pas dans l'abstrait. Quand on parle du cadre macroéconomique, c'est du concret, c'est du réel. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir un salaire aujourd'hui qui ne va plus représenter la même valeur une semaine ou un mois plus tard. Pour faire en sorte que le franc congolais soit stable, qu'un dollar congolais coûte autour de 900 en francs congolais pendant autant d'années, c'est un exploit, c'est pas facile parce que on a connu dans ce pays l'hyperinflation. Et donc, le gouvernement sur cette question a remporté une bataille de taille. Et cette bataille est d'autant plus valeureuse que depuis décembre 2012, nous ne sommes plus en programme avec le FMI. Ça montre qu'il y a de la maturité au niveau du gouvernement. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'il faudrait absolument que les paramètres macroéconomiques soient au vert avec ou sans le FMI. Donc ça doit être souligné. Je me redire encore ici que le gouvernement n'a pas une lampe magique sur laquelle il frotte et l'argent coule pour qu'il distribue à flot, qu'il augmente les salaires. Rappelez-vous toujours que nous sommes dans un pays où absolument nous avons à peu près 1 million de fonctionnaires avec un budget national d'à peu près 3,5 milliards de dollars. Donc on ne peut pas augmenter au même moment, en même temps, les salaires de tous les fonctionnaires. Il faut y aller palier par palier, d'où on fait de réformes, on lutte contre le coulage des recettes publiques, bref, on réforme le pays pour gagner de la richesse, cette richesse qui doit être distribuée. Mais justement, il y a un agencement de cette distribution de la richesse qui doit faire en sorte que des institutions politiques soient moins budgétivores afin de dégager des marges qui vont permettre au gouvernement de relancer l'agriculture, les infrastructures et d'augmenter les salaires de fonctionnaires. Donc nous sommes vraiment dans... J'aimerais revenir juste un mot sur la SNCC. Écoutez, les locomotives, c'est important. Avec quoi va-t-on payer les salaires des agents de la SNCC si on ne relance pas la production? L'objet social de la SNCC, c'est de transporter les marchandises avec ses locomotives et ses wagons et le transport du personnel. Donc, le gouvernement est plus intelligent en donnant à la SNCC 13 locomotives. Les locomotives vont générer de recettes, du flux, et avec cet argent, on va payer les salaires des agents de la SNCC. Parce que sans locomotives, on ne pourra pas dégager les salaires pour eux.
Albert Omba, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Un petit mot pour la conclusion.
Je crois qu'on doit tout faire. Je suis contre Israël qui dit lampe magique. Les gouvernements, pour réussir, doivent payer les gens. Il ne faut pas qu'ils se leurrent avec des théories économiques. Sans salaire, le travail ne se fera pas. Il a les moyens qu'ils répartissent équitablement les fonds et qu'ils augmentent les salaires. Petit à petit, ça va aller. Et il verra le résultat qui sera positif, qui sera concret à travers toute la République. Mais sans augmentation de salaire, il sera toujours buté à beaucoup de problèmes.
Albert Omba, je vous remercie. Et c'est avec vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que dans cette émission, je recevais Israël Moutala. Il est journaliste à Géopolis, un magazine économique des activités extractives qui paraît à Kinshasa. Nous étions également avec vous, Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio privée qui émet à Kinshasa, et Gaston Mouchid, il est directeur général à la radio-télévision Manika, émettant depuis Kolwezi Katanga. La technique était gérée par Jean-Claude Nsiala et Guima Tété à la réalisation. Samuel Kachak vous a présenté cette émission. La rediffusion, c'est pour demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end chez vous sur les antennes de Radio Okapi.